Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
À chaque fois que je l'invite, il y a toujours un événement. Il y a toujours quelque chose qui vient perturber. Ce matin, elle a été coincée dans la circulation, il y a eu un accident. Une autre fois, c'est une catastrophe. Elle arrivait en studio toujours découragée. Et hier, on a vu ce document présenté à TVA, 35 ans de complicité. Lise Dion, bonjour.
Bonjour, Paul.
Es-tu en sécurité, là? T'es-tu correct?
Je viens juste de me garer sur le garage au coin de Maisonneuve. Puis en même temps, je fais salut, bonjour en même temps. Fait que là, c'est comme... Puis je suis partie à 7 heures de chez nous ce matin. On dirait que l'éclipse n'est pas fini, là. À chaque fois, hein?
À chaque fois,
là, c'est la peut-être la dernière entrevue qu'on fait parce que moi, j'ai pris ma retraite déjà. Fait que
et Paul prend la sienne le 14 juin aussi.
Et Paul prend... Exactement, puis je m'en vais rencontrer un autre animateur qui prend sa retraite, fait que comme une vague, comme une affaire qui se passe.
Un club de retraités, vas-y Catherine.
Lise, exactement. Juste savoir comment va la santé, parce que vous en parlez dans ce documentaire, des problèmes de santé que vous avez vécu et ce qui s'est passé également sur scène au Zénith à Saint-Eustache. Comment ça va pour vous, là?
Ben ça va très bien. J'ai eu 3 stents que je suis obligée de déclarer à mes assurances quand je prends l'avion maintenant. J'ai 3 stents, mais le cœur va bien. C'est sûr que ça, quand tu as fait un malaise cardiaque, c'est épeurant d'en refaire un autre. Mais là, parce qu'il m'a dit vraiment que j'étais une malade cardiaque maintenant. Fait que j'ai comme OK, je l'accepte, là, je comprends. Mais c'est un peu épeurant, mais en même temps, ça redonne un goût à la vie assez incroyable parce que je me dis, j'aurais pu tout perdre, tout perdre dans le sens de plus revoir ceux que j'aime, plus revoir, j'étais une grande contemplative, mais là, c'est 2 fois pire. J'ai envie de rester dans la nature, j'ai envie de voyager, j'ai envie de faire un paquet d'affaires que j'ai jamais eu le temps de faire, mais de laisser les rires, de laisser... quand je suis montée sur scène, là, la première fois après l'événement, au 10-30, j'ai pleuré ma vie, puis je me suis dit, c'est la dernière fois que je vois une salle comme ça, puis je verrai plus les grands sourires, puis tu sais, le gag que tu lances, puis que le monde s'en va toute la tête par en arrière, là, il y a comme une vague, ça, c'est... À chaque fois que j'en parle, j'ai le frisson. Ça va être dur, mais en même temps, il reste pas beaucoup de temps, tu sais, la mort de Paul Oud m'a renversé. Je pensais que lui, son cœur était correct. Finalement, c'était pas, tu sais, j'ai tellement pensé à lui hier, il aurait été tellement content, mais quoi que, hier, il était aux premières loges pour voir l'éclipse, là, mais quand même, c'était épeurant de penser qu'on va perdre la vie si c'est parce que, tu sais, je disais en blague que j'avais encore du linge chez le nettoyeur, fait que je peux pas partir tout de suite, c'est comme, j'ai le tapis à faire nettoyer aussi, c'est comme, tu sais, mais c'était épeurant de passer si proche.
Mais 35 ans de carrière, Lise Dion, c'est déjà exceptionnel, mais est-ce que la tournée, ce mode de vie, ça finit par user aussi à la longue?
Ben oui, ça use. Il y a des plus jeunes qui ont lâché bien avant moi, là. Ça use par le voyagement, les chambres d'hôtel, défait les bagages, arrive chez vous, fait du lavage, refait les bagages. Fait que j'avais pas de vie sociale vraiment parce que je m'en allais faire des shows pendant que tout le monde était en train de prendre un petit apéritif sur une terrasse ou, tu sais, c'est comme... puis je travaille depuis l'âge de 13 ans, donc jusqu'à 68, faut que moi, je me convainque que j'ai le droit de penser à moi maintenant. Mais c'est dur de le faire. C'est vraiment dur de le faire.
Je veux raconter une anecdote. Parce que, oui, un jour, je faisais l'émission à TVA, qui est une formule d'entrevue face à face. Et j'avais eu l'idée d'inviter Yvon Deschamps et Lise Dion. Elle sait où je m'en vais. Alors, Parce que je trouvais un homme, une femme, deux générations différentes, les deux venant de milieux simples, ouvriers, et les deux ayant connu le succès. Et quand on a approché Lise, elle a dit ça à sa femme de ménage, qui a dit « Qu'est-ce que vous avez fait de mal? » Parce qu'elle s'attendait, tu comprends, moi je n'invite que des crapules, que des gens qui veulent des repentis. J'ai dit « Non, non, c'est pas ça du tout, là, voici le concept. » Je t'ai senti hésitante quand même.
Ouais, puis vous m'avez dit, mais si j'invite Yvon Deschamps avec vous, allez-vous être correct? Je oui, mais j'avais l'impression de passer aux douanes. Vraiment. Il y avait quelque chose qui n'était pas correct. Mais j'avais peur. Mais à chaque fois qu'on fait Paul Arcand, c'est comme, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait? Y a-t-il quelque chose qui a parlé de quelque chose? Y a-t-il quelqu'un qui veut me démolir? Y a-t-il fait, tabarouette, ça n'a pas de bon sens. Mais ça s'est passé avec les années, sauf que à chaque fois que j'ai voulu aller vous voir, il y avait un scandale, tabarouette.
Tout le temps.
C'est comme un pédophile qui s'est fait arrêter. Après ça, la journée d'après, il sort de prison. La journée que je m'en vais faire l'émission, tu sais. Après ça, la grosse grue à Montréal, le trafic. On n'a jamais vu ça, ce trafic-là. Mais non, c'est la journée où je m'en vais faire Paul Arcand.
Puis hier, c'était l'éclipse.
Hier, c'est l'éclipse, mais la dernière fois, j'étais stationnée dans un building que je me rappelais plus quel building j'avais pris mon auto. J'ai fait 3 étages de stationnement pour en faisant bip-bip pour savoir le son de l'auto. Tu sais, ah, tabarouette. Une journée d'ouvrage. Une journée d'ouvrage.
Lise, repose-toi, mais je suis convaincu qu'on va te voir quand même un peu de temps en temps. Moi, je n'ai pas une retraite, là. Je vais faire d'autres affaires, mais je sais que tu vas être
content. Non, oui. Oui, je vais faire des petites apparitions.
Ben oui.
Avant que vous me laissiez avant que vous me laissiez m'abandonner, je voulais vous dire, je sais que vous n'aimez pas ça, là, mais merci pour toutes les heures de radio que vous nous avez données, parce que ça, je pense pas que vous reparlez d'ici au mois de juin. Puis, je voulais vous dire que c'était réconfortant d'entendre votre voix le matin, même si moi, je suis arrivée dans des scandales. J'étais réconfortée par votre voix. Je me disais, s'il est là le matin, c'est parce que le ciel ne nous est pas tombé sur la tête. Parfait. Puis, je voulais vous dire aussi comment ça a été important que vous changiez les choses comme vous avez été capable de les changer. Vous n'avez pas été capable de tout changer. Mais quand Paul Arcand est fâché sur quelque chose, on entend parler, puis ça change en général dans les jours qui suivent. Fait que je vous remercie pour ça. Puis bravo pour tout ce que vous avez, ben la vie sociale que vous avez pas eue avant de vous coucher de bonne heure. Merci beaucoup.
Merci
beaucoup,
à toi, Lise. C'est bien
merci
gentil.
Merci aux journalistes pour toute la carrière parce que vous m'avez donné un sacré coup de main. Merci énormément.
Salut, à bientôt.
Et
bonne
chance.
Bon été. Oui, aussi.
Bel été, puis reposez-vous aussi.
Ça marche. Salut,
bye.
C'était Lise Dion.
Ben oui, Lise Dion, le documentaire. Ben bravo, ouais. Paul, pour toutes ces années. On aura l'occasion, nous autres, de te le dire en masse. C'est le 14 juin.
Paul, il se réveille puis il est en tournage!
Bon, ça, c'est notre chroniqueur de sport.
Oui, exactement. Philippe Audrey de la rue Saint-Jacques. Mais je rappelle que le documentaire Lise Dion, 35 ans de complicité, ça a été présenté hier soir à TVA, mais c'est disponible sur le site web de TVA.
Mais c'est vrai, l'anecdote, écoute, sa femme de ménage a dit « Qu'est-ce que vous avez fait? »
Mais ben, rien fait. C'est l'effet que tu fais aussi.
Non, mais je fais pas rien avec ça. Je dire, c'est pas unidimensionnel.
Mais il y a eu une époque où t'étais plus raide un petit peu.
Ben, ça pouvait arriver, là, mais tu sais. Bon, nous avons un nouvel animateur devant nous quand même. Et d'ailleurs, vous l'avez vu, il est intervenu parfait, il a posé des questions. On a appris hier que Ricardo devenait co-animateur de l'émission Deux hommes en or à Télé-Québec.
Et Rosalie aussi avec Télé-Québec, avec Jean-Philippe Vautier à l'animation et Rosalie Bonenfant. Salut, nouvel animateur, Ricardo.
Ben oui, écoute, ce matin, j'étais comme un peu nerveux, c'est drôle, je disais ça avant d'entrer en onde parce que je suis habitué d'être dans des fonctions que je fais depuis 25 ans tous les jours. Et là, d'avoir été choisi pour faire quelque chose que je souhaitais.
Ça fait longtemps que tu souhaitais ça.
Ben, ouais. C'est-à-dire que je savais que j'avais envie d'aller vers un autre type d'animation. J'anime quand même depuis 25 ans des chroniques ou l'émission Une quotidienne. Mais d'aller plus en profondeur, c'est là où toute la différence est. Tu sais, souvent, j'avais des frustrations. Tu sais, je me souviens d'une émission, j'étais avec Mireille Desglin, Janine Souto et leur fille. Je me disais, c'est quand même exceptionnel. Puis, tu sais, je savais que Madame Souto était comme pas pour être là encore très longtemps. Je dis, moi, j'ai la chance d'avoir les 3 générations et je suis obligé de rusher ça parce que j'ai 23 minutes, si j'enlève les pubs, pour faire une recette, de jaser avec eux autres, tout ça. Puis, tu finis des fois avec un peu d'amertume quasiment en disant, j'aurais tellement aimé les entendre parler. sur leur relation autour de la cuisine, si on veut, mais entre ces générations-là, ça pouvait pas se passer. Alors, le désir d'écouter les histoires des autres, d'aller un peu plus en profondeur, ben enfin, va être assouvi grâce à ces.
Et c'est arrivé comment? T'as présenté ta candidature?
Ben non, écoute, j'ai reçu un appel en disant, écoutez, pour toutes sortes de raisons, tu sais, au début, c'est toujours flou quand un producteur t'appelle, pour toutes sortes de raisons, Monsieur Lagacé sera pas là l'an prochain de la même façon. Tu fais 1+1, effectivement. Et le gars, faut qu'il dorme de temps en temps.
Oui.
Je dis Morning Man, je sais pas, on se lève à 3h du matin. Fait que il dit, vous êtes sur la liste des gens qui ont été pressentis pour passer à sa place. Puis j'ai dit, bon, pouvez-vous y penser? J'ai pensé à ça 3 jours, je pense. Vraiment pas plus. J'ai dit, bon, ben, OK, on se reparle telle date. Ça tombait vraiment bien. J'étais en vacances. Fait que j'étais tout seul avec Brigitte, puis on s'est mis à faire les pour les contre. Qu'est-ce qui me stimulait dans la vie? Puis on est parti de moi à la base plutôt que de partir de notre entreprise. Dire, OK, qu'est-ce que tu as envie de faire dans les années qui viennent? Qu'est-ce que tu as envie de dire? Qu'est-ce que tu as envie d'apprendre? Puis c'est peut-être aussi une question que beaucoup de monde dans la fin de la cinquantaine se pose. Tu sais, les années d'énergie qui me restent, puis de passion, qu'est-ce que je veux faire avec? Puis j'ai envie d'écouter un peu plus ces histoires-là qui, souvent, je faisais des tournages. Je me souviens, j'ai fait une série pour le 150e du Canada. J'ai fait toutes les provinces, tous les territoires. J'ai rencontré des gens qui sont tous formidables dans quelque chose d'alimentaire. Puis je me souviens d'une entrevue. Je suis à La Ronge, dans le nord de la Saskatchewan, dans une communauté des Premières Nations. Et la femme, la sage du village, tu comprends, je passe un moment avec elle, puis elle me dit qu'elle a de la misère avec le monde dans notre genre. T'sais. Puis elle commence à m'expliquer tout ça. Puis il y a une caméra en arrière. Puis moi, j'étais microté. Puis j'y ai pas pensé. Puis dans ma tête, je me dis, mais ça se peut pas. C'est parce qu'on se connaît pas. T'sais. On se connaît pas. Puis on a passé 3 quarts d'heure comme ça. Il y a rien de ça, jamais, qui va être vu. Nulle part. Puis son gars, à son décès, il m'appelle et dit, je pourrais-tu mettre un bout de ce que vous avez fait? Parce que c'est rare qu'on a jasé avec du monde qui s'intéressait à notre culture culinaire dans un coin reculé du pays. Puis ça me blessait, pas blessé, ça me faisait de la peine que ça se soit toujours perdu. Que ces phrases-là, que ces textes-là soient pas entendus parce que c'était des gens extraordinaires. Puis encore une fois, grâce à ce genre d'émission-là, je veux pouvoir avoir des conversations qui vont plus loin que ce que j'avais l'occasion d'avoir avant.
Mais tu sais que parfois, tu plairas pas toujours. Ça a été le cas pour Masterchef. Ça a beaucoup fait jaser le commentaire que t'as fait un concurrent, les gens sur les réseaux sociaux. Ah, mais Ricardo, il a pas été gentil. Je trouve qu'il était bête. Même maman me l'a dit. Mon Ricardo, qu'est-ce qu'il a fait là? Mais ça, tu vas avoir ce genre de commentaire que t'avais pas avant avec, nécessairement.
Mais ça, c'est une belle leçon que je suis content que ça me soit arrivé là, avant que ça arrive. Parce que, tu sais, te faire bâcher à tort ou à raison pour quelque chose qui est fondamental pour toi, pour une conviction, pour une opinion, pour quelque chose que tu penses qui peut faire une différence, je sais que j'aurai aucun problème avec ça. Mais c'est de se dire, quand est-ce que je me ferme la trappe? Quand est-ce que je vais au bâton pour la vraie et la bonne raison? Donc, la vie est bien faite. J'aime mieux avoir eu une leçon avant, parce que c'était jamais arrivé auparavant que j'ai à lire des commentaires en me disant, attends une minute, là, qu'est-ce que j'ai fait? Je le regrette-tu? Je le regrette-tu pas? Qu'est-ce que je... Puis d'y réfléchir, ben je vais être doublement, je dirais, et prudent et humble et réfléchi dans la façon dont je vais aborder les sujets.
Qu'est-ce que tu vas faire quand ton invité répondra pas à ta question?
Ben, je vais dire, c'est toi qui vas avoir l'air fou. Parce que si tu vas à une émission,
oui.
Ben c'est parce que tu l'as choisi. Un, c'est pas un tribunal.
Il n'y a pas de suspect, non.
Il n'y a pas de suspect, non. T'as envie d'être là, c'est parce que t'as envie de nous dire quelque chose. Que ce soit quelque chose parce que t'as une nouvelle pièce de théâtre qui part ou parce que t'as fait quelque chose que les gens sont plus ou moins d'accord. Mais tu vas à une émission, c'est pour expliquer, dire, raconter ce que t'as envie. Sinon, vas-y pas.
Et si un invité parle trop, parce que t'as une petite tendance...
Ben, si je tombe sur un Ricardo...
C'est ce que j'allais dire.
Oui, c'est ça.
Voilà. Je sais bien. Si je tombe sur un Ricardo, ben j'essaierai de faire ce que Paul Oud ou Paul Arcand faisait, tu sais. Ben, regarde, tant pis pour toi, il y aurait eu juste une question.
Ah, ta gueule!
Alors, c'est de la prochaine saison?
Oui, oui, oui.
Est-ce que tu sais qui tu vas inviter en premier?
Non, écoute, d'ailleurs, je suis heureux de savoir que ça fonctionne beaucoup. C'est une des premières questions que j'ai demandé. Comment ça fonctionne? C'est très collégial. C'est très, tu sais, on le fait en groupe. Tu sais, des fois, Jean-Philippe me disait, ouais, mais quand j'ai déjà fait l'entrevue deux fois dans le mois avec cette personne-là, c'est le fun que quelqu'un d'autre prenne le relais. Alors, puis il y a des naturels, il y a des sujets qui t'attirent plus, que tu connais plus. Au contraire, des fois, il y a un sujet que tu connais pas, t'as envie de t'y plonger. C'est, pour moi, c'est vraiment emballant d'être dans ce contre-emploi-là. Sachant que la passion et la cuisine va demeurer là pour moi toute la vie. C'est pas fini, c'est pas « Ah, oh, je change de carrière ». Non, non. Ce moment-là dans ma vie est précieux. Je vais l'utiliser pour être, probablement être encore meilleur quand je ferai d'autres émissions où la cuisine sera le centre.
Mais les entreprises, ça va comment? Parce qu'on a vu l'inflation aussi dans les supermarchés. Comment ça se passe pour
Écoute,
les produits Ricardo?
Deux réponses contradictoires. Ça va pas bien, mais ça va bien dans le contexte. Tu sais, je veux dire, les coûts des aliments augmentent, tout est difficile. Il y a rien de facile, mais je dis, on a la meilleure équipe qu'on a jamais eue. Hier, c'était notre, à tous les deux, trois mois, on a une espèce de communication à tous où Brigitte puis les directrices des départements nous expliquent où on s'en va. Chacun peut poser ses questions. On le sait qu'il y a des grands défis à venir, mais c'est toujours des cycles. C'est mon troisième cycle depuis qu'on est entreprise. C'est toujours des cycles de 2, 3, 4 ans qui montent, qui descendent dans l'économie. Et là, on s'en va encore pour un peu plus bas, mais on le sait que ça va remonter. Il y a un équilibre qui va se refaire entre le coût des aliments, des services et les salaires. Et puis ça n'a jamais le choix. C'est toujours ça qui arrive. Fait qu'on s'encourage beaucoup. On sert les coudes, puis on essaie d'être meilleur qu'on est à chaque fois parce que c'est en étant bon que les gens continuent de suivre. Donc, les commentaires, bons ou mauvais, c'est le meilleur moment de les lire. Parce qu'il faut se préparer pour être prêt puis être mieux qu'on a été avant.
Ricardo, merci beaucoup d'être venu.
Merci à vous autres. Merci.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand.
Joël Dicker nous présente son nouveau livre qui a pour titre « Un animal sauvage ». Évidemment, c'est un auteur à succès. On se souvient tous de la vérité sur l'affaire Harry Kébert. Et c'est un auteur prolifique et qui compte, je dirais, des millions de lecteurs un peu partout à travers le monde. Il est avec nous ce matin. Joël Dicker, bonjour.
Bonjour, comment allez-vous?
Très bien, vous-même?
Ça va bien, merci beaucoup. Très heureux d'être avec vous.
Parlez-nous de ce livre, Un animal sauvage. J'en ai parcouru pratiquement la moitié. C'est comme d'habitude, avec un rythme très, très rapide. Il y a un braquage de banque. Vous découpez le livre par moment avec des retours en arrière. Et puis, vous nous amenez dans l'univers de deux couples. L'idée de cette histoire vous est venue comment?
Oui, c'est un livre qui se passe chez moi à Genève, en Suisse. L'idée m'est d'abord venue d'avoir un livre qui se passe à Genève. J'avais envie de raconter un peu cette ville qui m'est chère. Et puis j'avais envie de commencer un livre dont le rythme serait tout de suite prenant. Et ce livre commence, vous l'avez dit, par ce braquage. Deux braqueurs entrent dans une bijouterie. Le braquage commence. Ils enclenchent leur chrono. 7 minutes, c'est le temps qu'ils se donnent. Le chrono tourne. Et là, on tourne la page et on revient 20 jours avant ce braquage. Et on va rencontrer ces deux couples. Karine et Greg, Arpad et Sophie, et on va se rendre compte, puisqu'en filigrane que les jours avancent, les 20 jours avant le braquage, le compte à rebours 19-20 jusqu'au jour du braquage, jusqu'au braquage, on le suit en filigrane et on comprend que ces deux couples ont probablement un lien avec tout ça, mais je ne vous en dirai pas plus.
Non, il faut pas, mais quand même, c'est intéressant de voir d'un côté le couple qui semble incarner la perfection sur le plan de la beauté physique, sur le plan des revenus, et l'autre couple dont il y a un policier, la vie semble plus difficile. Parlez-moi de ce couple qui donc représente la perfection.
On a un couple qui est parfait. Arpad, on pense qu'il est parfait. Arpad est banquier, Sophie est avocate, ils habitent dans cette très belle maison dans une banlieue chic de Genève. Une maison tout en verre qui est entourée par la forêt et dans laquelle ils se sentent à l'abri. Et ils ont pour voisin, à quelques centaines de mètres de là, Greg qui est policier, sa femme Karine, qui eux sont tout pleins de leur imperfection, qui habitent dans une maison, un lotissement de moyen de gamme qui a été construit là et qui fait un peu tache dans ce quartier cossu. Et Greg et Karine sont fascinés par Arpad et Sophie. Et on présente Arpad et Sophie comme un couple parfait, vous l'avez dit, mais on se rend vite compte qu'il y a un jeu des apparences, mais qui n'est pas seulement les apparences que Arpad et Sophie donnent, donc il n'y a pas seulement l'image qu'eux donnent d'eux-mêmes de cette perfection, mais ces apparences, ce sont aussi la façon dont Greg et Karine, qui sont très imparfaits, les perçoivent, et on se rend compte qu'ils projettent sur ce couple parfait beaucoup de leurs envies et beaucoup de leurs fantasmes.
Comment ces deux couples-là peuvent tisser des liens, devenir amis?
Ils sont voisins. Alors au début, ils sont un peu, surtout Karine, quand elle arrive pour la première fois, elle est invitée à l'anniversaire d'Arpad, qui connaît son mari Greg, et elle y va un peu en reculant, elle les juge, elle a comme ça ses préjugés sur eux, en disant « mais c'est qui ces types, pour qui ils se prennent, ils sont si beaux, si comme ça, si parfaits, avec leur grande maison, leur belle voiture, etc. » Et puis elle arrive à la fête, et puis elle est immédiatement séduite. Et Greg et Karine vont être séduits par le charisme, par la gentillesse, par la sympathie de ce couple-là, ce couple a quelque chose de très magnétique, au-delà de la perfection qu'ils dégagent, on a envie d'être eux, on a envie d'être avec eux, et ils vont vite tisser des liens. Greg et Karine vont être rapidement très amis, vont se lier, vont être fascinés, et cette fascination va tourner à l'obsession.
Je vais faire une courte parenthèse. Quand on parle d'obsession, là, je vais le dire aux gens, mais vous allez le découvrir rapidement dans les premières pages. Il y a une obsession chez ce policier. Il est obsédé par l'autre femme. Il se cache dans les bois, amène son chien et prend des photos. En fait, espionne cette femme dont il rêve.
Et oui, il est complètement possédé par cette femme. Il est complètement pris. Et lui-même, ça le stupéfait un peu parce que c'est la première fois que ça lui arrive. Greg, il est policier d'élite. Il est le SWAT. Hein. Il fait partie de la brigade d'intervention de la police. Il est rompu à toutes les actions, il est un chef très respecté par tous ses hommes, c'est un policier qui a beaucoup de talent, qui a jamais dérapé dans son métier ou dans sa vie, qui est un gentil père, qui est un gentil mari, tout va bien pour lui. Et puis quand il rencontre Sophie, il est fasciné par elle, il devient obsédé par elle, et il devient obsédé parce qu'il se rend compte, en allant faire sa course avec son chien, sa course à pied, il se rend compte que en passant par la forêt, il peut observer leur maison. Il se rend compte que Sophie, tous les matins, elle se lève avant tout le monde. À 6 heures du matin, elle se réveille. Et tous les matins, dans cette maison de verre, elle descend dans sa cuisine et boit son café à la fenêtre. Et donc, elle ne se rend pas compte que Greg, le policier, revient tous les matins où il fait croire qu'il promène son chien et puis croire qu'il part courir. Mais en fait, il court 100 mètres. Il se cache dans la forêt. Il se cache derrière les arbres et il l'observe. Il passe une heure à l'observer en train de boire son café. Et cette obsession, enfin, ça va le rendre complètement fou et ça va le faire faire des choses complètement folles.
En lisant votre livre, Joël Dicker, j'ai fait des liens avec des événements vrais. Des gens qui, parce qu'ils commettent un crime, par exemple, on découvre que dans leur passé, il y a des squelettes. On découvre qu'ils ont une double vie. On découvre qu'ils font semblant d'avoir un emploi très rémunérateur, ce qui n'est pas le cas. Et même à l'intérieur des couples, des secrets, le passé qui remonte. Est-ce que vous vous êtes inspiré de cas réels?
Je ne me suis pas inspiré de cas réels, en tout cas pas auxquels je pense comme ça. Il y en a un qui a eu un retentissement cependant, qui n'est pas exactement l'histoire dont je parle, mais qui a eu un retentissement assez important et qui a fait l'objet d'un livre et d'un film sur un médecin qui habitait à Genève, qui faisait croire qu'il travaillait à l'OMS et qui a menti à sa famille pendant plus de 25 ans. Mais je crois que ce livre parle surtout au-delà de... C'est vrai qu'il y a quelques grands secrets dans le livre, mais il y a surtout des tout petits secrets. Il y a des tout petits secrets qui deviennent gros, et ces secrets, au fond, au début, sont même pas des secrets, ils sont des sentiments, des sensations, des envies que le mari ou la femme a et qu'elle n'ose pas partager avec son conjoint. Et puis, cette chose qu'on ne partage pas, au début, c'est simplement quelque chose qu'on n'a pas dit, c'est un non-dit qui grossit, et puis moins on en parle, plus il prend de la place dans celui qui n'en a pas parlé, puisque ça le tracasse, ça l'habite, et plus ça grossit, plus là ça devient un secret, c'est-à-dire quelque chose qu'on retient, qu'on cache, qui nous empêche un peu de vivre, qui nous ronge un peu, qui nous tracasse, mais qu'on ne partage pas. Et ce secret, ce qui est dans ce livre, c'est que, je le disais, il y a quelques gros secrets, mais il y a aussi plein de petits secrets qui vont gangréner le couple et qui vont mettre les couples dans des situations très périlleuses.
Vous dites l'histoire se passe chez moi à Genève, donc en Suisse. Sentez-vous des différences? Vous avez quand même voyagé beaucoup là sur les relations de couple, des différences entre les gens qui se voisinent, qui se fréquentent. Est-ce que c'est universel pour vous ou s'il y a des particularités suisses?
Non, je crois qu'il y a quelque chose de très universel. Et je crois que cette histoire, d'ailleurs comme mes autres livres, elle parlera à mes lecteurs où qu'ils soient dans le monde, parce que ces couples, ces sentiments, ces envies, ces jalousies, ces insatisfactions, pardon, ces apparences, ce monde des apparences, c'est quelque chose de très universel aujourd'hui. Et justement, c'est ça dont j'avais envie de parler. J'avais envie d'utiliser Genève comme décor et de ramener l'histoire chez moi. Mais ces personnages-là, ils pourraient vivre cette aventure à Montréal, à Québec, à Paris, à Bruxelles, à Londres. Tout le monde s'y retrouvera.
Est-ce que vous rêvez que ce livre-là, je pense à La vérité sur l'affaire Harry Québert, devienne éventuellement une série, un film? Est-ce que pour vous, c'est une belle expérience de voir un roman être porté à l'écran?
C'est une très belle expérience et je garde de mon expérience de Harry Québert en plus tourné au Québec. Je garde une expérience vraiment incroyable de ce tournage, des rencontres que j'ai faites, mais ce n'est pas une fin en soi. Et on n'écrit pas un livre, et moi en tout cas, je n'écris pas un livre en me disant « j'espère qu'il sera adapté ou il sera adapté ». Je ne l'écris pas comme ça, et d'ailleurs en plus, dans un monde où on est aujourd'hui très tourné vers l'écran, il y a beaucoup de livres qui sont achetés pour en faire des séries ou des films, seulement un seul de mes livres a été transposé à l'écran, alors qu'à chacun de mes livres, on me dit toujours « vos livres sont très cinématographiques, on voit la série, on voit le film, ça va être un film, c'est sûr ». Et puis en fait, en réalité, quand les producteurs viennent, et il y en a beaucoup, hein, et on s'intéresse beaucoup évidemment à ce que je fais, mais dès qu'on commence à se mettre un peu les mains dedans, les producteurs se rendent compte que ce n'est pas si facile. Parce que ce qui est cinématographique dans mes romans, c'est toute la place que je laisse à mes lecteurs. Je décris très peu, je raconte très peu comment sont ces personnages physiquement et ces décors. Sophie, dans ce livre qui attire tous les regards, je la décris très peu et chaque lecteur va se l'approprier, chaque lecteur va l'imaginer telle qu'il a envie qu'elle soit. Et donc, quand on raconte très peu au fond et qu'il faut rendre tout ça à l'image, de façon concrète, c'est pas si simple que ça.
Est-ce que, compte tenu de la multiplication des plateformes, où il y a une offre jamais vue pour des films, des séries, donc des histoires, et vous le dites, là, tirées, par exemple, d'auteurs suédois, d'auteurs comme vous et de d'autres, là, est-ce que l'offre est telle que pour un romancier d'écrire une histoire, c'est devenu un casse-tête? Puis est-ce que les gens ont encore envie de lire? Visiblement, oui, mais la compétition est forte plus que jamais.
Oui, les gens ont envie de lire, mais je crois vraiment, et je le vois en librairie, quand je rencontre les lecteurs, je vois à quel point la lecture est un exercice et un divertissement qui est supérieur à la série ou au cinéma en termes de ce que ça nous apporte. Ce n'est pas une comparaison en disant l'un est mieux que l'autre, c'est vraiment une sensation. Quand on lit un livre, on imagine, on vit une expérience qui est notre expérience à nous lecteurs parce que on imagine, comme je le disais avant, les personnages, on imagine les décors, on a l'impression que ce qu'on a vécu, on l'a vécu vraiment, on a l'impression qu'ils ont existé vraiment. Alors que on est vraiment dans un travail très intense, on est participant, on est co-créateur quand on lit. Alors que quand on est dans une série télé ou dans un film, on est participant passif parce qu'on regarde une série, dont on nous impose les images, le rythme, la langue. Et on a une expérience qui est beaucoup moins forte. Et moi, je vois à quel point tout le monde aime lire, mais tout le monde ne le sait pas encore. Et je crois que la lecture a de beaux jours devant elle, mais il faut lire et faire lire. Il faut encourager les gens à lire. Et vous savez, lire, c'est pas compliqué. On a l'impression que lire, c'est ennuyeux, c'est long, c'est compliqué, qu'on n'a pas le temps. Mais c'est vrai qu'on n'a pas énormément de temps. C'est pour ça que pour lire, il faut avoir un livre avec soi, dans son sac. C'est la première étape. Prenez un livre avec vous toujours. Et ouvrez votre livre dans le bus, dans le métro, quand vous avez une pause, chez le médecin, quand vous attendez. La lecture, elle se fait quelques minutes par quelques minutes. Il ne s'agit pas de bloquer une soirée entière toutes les semaines, juste quelques minutes par-ci, par-là. Et si quelqu'un n'aime pas lire et que vous voulez le convaincre de lire, dites-lui, un, prends un livre avec toi dans ton sac, et deux, engage-toi à lire 5 minutes par jour. Et je vous promets que quand vous avez un bon livre et que vous lisez 5 minutes par jour, ces 5 minutes, elles deviennent vite 7 minutes, puis 10 minutes, puis un quart d'heure, et puis on se prend au jeu. Il faut simplement entrer là-dedans et c'est une aventure qui est toujours formidable.
Et on peut commencer par un animal sauvage. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci pour l'heure. Merci à vous.
Au revoir. Joël Dicker, donc un animal sauvage, est maintenant disponible. Et je pense, sauf erreur, que c'est son 7e roman.
Vous écoutez L'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand.
Depuis la semaine dernière, il y a une vague autour des propos du premier ministre Legault, ce gastronome incroyable, qui est allé déguster ce qu'on appelle le foufou sauce graine. Et celui qui a attiré le premier ministre du Québec dans cette aventure, il s'appelle Anthony Tran. Fred, tu nous l'as présenté la semaine dernière.
Oui, absolument, qui est impliqué dans le monde des influenceurs depuis plusieurs années et qui a eu l'invitation. En fait, c'est toi qui as eu l'invitation du premier ministre pour faire cette vidéo-là.
Oui, absolument. Mais en fait, j'ai envoyé l'invitation puis il a accepté. Donc, je suis très reconnaissant de ça.
Raconte-nous comment ça s'est passé.
En fait, moi, le but comme créateur de contenu, c'est de créer des pièces de contenu qui sont mémorables. Donc, pour moi, qu'est-ce qui est important, c'est de mon défi, c'est d'essayer de rassembler toutes les générations possibles, puis de faire le plus de bruit possible, tout en ayant un impact positif. Tu sais, là, évidemment, sur les réseaux sociaux, il y avait le restaurant Belle Afrique, qui avait une grande notoriété, qui était super populaire, puis que tout le monde en parlait à ce moment-là. Fait que là, dans ma tête, c'est quelle invitation que je pouvais faire pour pouvoir interrompre tout ce milieu-là, autant sur TikTok, mais aussi en faire parler pour les personnes qui regardent pas beaucoup les réseaux sociaux. Donc, j'ai décidé d'y aller avec M. Legault, mais en fait, c'est la première fois que je le dis, mais j'avais fait une invitation à vous, Ricardo. À Ricardo. Mais je pense que ça n'a pas donné, malheureusement, ouais. Mais donc, c'était...
On va écouter l'extrait en question qui a mis le feu à toute l'histoire.
Monsieur Legault va goûter au foufou sauce graine.
Oui, c'est consistant. Je pensais que c'était comme des patates pilées. Mais non, c'est comme une espèce de fromage doux. Habituellement, on mangerait ça avec ses mains. Oui. Mais bon, je ne veux pas faire jaser pour rien. Là, c'est pour ça que j'ai une fourchette. Donc, je m'essaye avec le foufou sauce graine.
Avez-vous été étonné?
Très bon. C'est pas trop.
Avez-vous été étonné de voir sa réaction?
J'avais aucune attente. Mais je suis bien agréablement surpris de sa réaction. C'est super.
Il y a des gens qui disent que tu as été utilisé par le premier ministre. Comment tu te sens par rapport à ce propos-là?
C'est une bonne question. C'est une grosse question. Honnêtement, pour moi, pour moi, tu sais, je suis un gars qui. Je parle pas beaucoup de politique. Je suis un gars qui aime ça créer du contenu. Moi, c'est vraiment la culture où j'avais mon focus. Écoutez, là, pour moi, c'est une rencontre de 15 minutes. Je pense pas qu'il y aurait pu faire autre chose à ce moment-là. Tu sais, c'est une pause midi. Donc, pour moi, c'était quelque chose qui était positif, autant pour toute la communauté, les réseaux sociaux. L'utilisation politique, pour moi... C'est vraiment plus le focus de la culture pour moi qui m'importait.
Co-fondateur de l'Association des créatrices et créateurs de contenu du Québec. Explique-nous, c'est quoi un créateur de contenu?
Absolument, c'est quelqu'un en fait qui va partager en vidéo ou en photo du contenu sur le web tout simplement, puis qui va partager ça soit pour eux-mêmes pour commencer bien sûr, mais après ça qui avec le temps développe une communauté, puis qui partage ses passions ou ses intérêts, peu importe, ou des réalisations qu'il aimerait. Tout comme je dirais, tu sais, à la télé, à la radio, mais sur le web, simplement.
OK. T'as combien d'abonnés, par exemple, qui te suivent?
Pour moi, en ce moment, j'en ai, je pense, au total, près de 300 000 à travers les plateformes. Je suis très reconnaissant de ça.
Dans ce, j'imagine. Tu gagnes ta vie avec ça?
Oui, absolument, absolument. Ça fait 2 ans que je me suis lancé à temps plein dans les réseaux sociaux.
Et bien aussi.
Oui, absolument. Le but, c'est d'avoir un impact positif.
Ricardo, t'allais dire quelque chose?
Oui, parce que c'est très, très rare au Québec... que quelqu'un peut vivre avec TikTok et qui a l'intelligence de pouvoir transformer ça en quelque chose de positif. Moi, je le suis depuis, je pense, les tout débuts. J'avais dit à Brigitte, ce gars-là, il a quelque chose de le fun parce que c'est un positif aussi. Tu le vois évoluer. C'est jamais... Puis moi, je pense pas du tout qu'il y a eu de la manipulation politique s'il y en a une, c'est plus le contraire. Dans le sens où c'est un gars brillant qui est capable de mettre les morceaux ensemble pour que ça pogne, que ça marche. Il y a un côté très génial marketing derrière ça. Puis moi, je suis très fier. Je le connais pas personnellement. On s'est vu à quelques reprises. J'ai fait quelque chose avec toi il y a déjà 2 ans. Mais de voir ce gars-là grandir, puis c'est planétaire là. C'est ça qui est le fun. Parce que ce que lui fait, ben il y a des gens à travers le monde qui peuvent le voir. Fait que c'est pour ça que moi je trouve que c'est un influenceur très positif au Québec.
Là, j'ai une question pas facile, je te préviens.
Oui, absolument.
Il y a un débat actuellement sur le temps d'écran que les jeunes, en fait, le temps passé devant des écrans par les jeunes, on parle de légiférer, de passer des lois, des règlements. Trouves-tu que les jeunes, comme toi, passent trop de temps devant les écrans?
Ah, c'est une bonne question. j'ai une question pour vous, pour répondre à cette question-là. Est-ce que, dans le temps de mes parents, en fait, est-ce qu'on regardait trop la télé? Ou c'était, est-ce que c'était, y avait le même
faut jamais
débat?
Répondre par une question. Faut plutôt répondre par une réponse.
Mais écoutez, en tant que créateur de contenu, c'est sûr que moi, je veux que mon contenu soit le plus vu possible par les personnes que je vise, évidemment. Mais c'est sûr qu'il y a, tu sais, pour moi, j'essaie de prôner le plus possible de, oui, tu sais, avoir une bonne balance de vie. Fait, évidemment, les réseaux sociaux, c'est une partie, mais ça peut pas être ça peut pas être ton 360 dans ta vie. Il faut aller jouer dehors, il faut aller parler avec du monde, puis avec du monde en vrai. C'est juste que les réseaux sociaux, je trouve que c'est un outil magnifique pour des fois même commencer ces discussions-là, puis ensuite de ça, on va texter quelqu'un, puis on va aller le voir pour jouer au soccer ensemble. T'sais.
C'est très bien. Et il y avait également les nominés là, pour le gala des influenceurs.
Absolument.
Ça s'est fait, là, la liste est connue?
Oui, c'est ça. En fait, on a annoncé ça hier, puis je peux vous dire que la réponse par rapport aux nommés a été super agréable. C'est vraiment touchant de voir qu'il y a que les nommés, en fait, pour la première fois, ou pas beaucoup, ils n'ont pas beaucoup de reconnaissance d'habitude. Donc, avec le gala qu'on essaie de donner cette reconnaissance-là, c'est super touchant à voir.
Ce qui est le fun de ce gala-là, c'est que, bon, dans les dernières années, on a eu quelques exemples d'influenceurs qui ont fait des choses qui n'avaient pas de sens. Bien, ça crédibilise un peu la démarche. Puis il y a des gens qui ont une démarche extrêmement sérieuse, qui sont nommés là-dedans et qui méritent d'être vus et reconnus.
Absolument, absolument. On a 20 catégories, évidemment, mais une des catégories dont je pense que vous pouvez faire la référence, c'est éducation et sensibilisation. Mmh. Déjà là, cette catégorie-là a un méga impact. Toutes ces 5 nommées-là, dans cette catégorie-là, ont un méga impact positif pour leur communauté et pour la culture québécoise, finalement.
Merci beaucoup d'être venu ce matin, Anthony
Merci Tram. Beaucoup à vous.
Je reviens sur l'éclipse parce qu'on a vu beaucoup de témoignages et on se répète un peu en disant qu'il y a eu le volet scientifique, mais il y a le volet humain de tout ça, puis de l'expérience, quand on sait que c'est une fois dans une vie qu'on peut assister à un événement dans notre quartier, avec les proches, avec la famille et les voisins. Il y en a beaucoup qui font le tour du monde. Je le disais hier, mon frère fait ça, c'est un chasseur d'éclipses, il est au Texas, ma nièce est au Mexique, puis ils ont pu apprécier le spectacle, m'ont-ils écrit. Luc Langevin, que vous connaissez, illusionniste et amateur d'astronomie, est avec nous. Luc Langevin, bonjour.
Bonjour, Paul.
Alors, raconte-nous comment t'as passé ce moment historique.
Ben, c'était sur le toit de l'endroit où j'habite avec ma famille. On s'était rassemblés, évidemment, là, pour vivre l'événement. Puis ça a été une surprise, en fait, de voir autant de gens rassemblés, autant sur les toits voisins, puis dans le parc, en face de chez nous. Moi, je m'attendais à ce que ce soit juste les tripeux d'astronomie ou de ce genre de phénomène-là qui y assisteraient. Puis finalement, j'ai vu que ça a vraiment été un événement rassembleur, là.
Est-ce que c'était ta première éclipse totale?
Ben oui, j'aime l'astronomie, mais pas assez pour me promener là sur la planète pour le voir. Puis j'avoue que je m'attendais pas à ce que ça soit aussi spectaculaire. Ça me donne le goût, peut-être maintenant, peut-être dans le futur, de voyager pour aller en voir ailleurs.
Qu'est-ce qui t'a impressionné? Qu'est-ce qui t'a soufflé?
Ben c'est l'émerveillement pur. Je m'attendais pas, ben comme bien des gens, je pense, à être autant soufflé par ça. Je me sentais comme dans un film hollywoodien où on voit un effet spécial là, plus grand que nature, puis de le vivre en live. Là, le fait de sentir la température descendre, de voir la couronne solaire dans le ciel, c'était vraiment spectaculaire. Je me suis senti petit face à cette espèce d'événement de la nature. Là. J'ai ressenti un émerveillement que j'avais pas senti depuis longtemps. Là. En étant illusionniste, je connais les ficelles de tous les tours de magie, puis même tous les phénomènes paranormaux. Puis c'est rare que je vis quelque chose comme ça. Donc, ça m'a vraiment fait revivre une émotion que j'avais pas vécue depuis longtemps.
Il y a un auditeur qui m'a écrit ce matin, il dit, j'ai eu l'impression, après, que je suis retourné à ma petite vie plate.
Oui, ah oui, j'ai vraiment senti ça. En fait, la phrase qui m'est venue en tête, moi, c'est, maintenant qu'on a tout vécu ça, on continue à vivre comme si de rien n'était. Ça m'a saisi, moi aussi, de vivre ça. Puis là, après ça, ben, on sort nos téléphones, on retourne travailler. C'est un peu anticlimatique, mais c'est ça, c'est la notion d'événement. Hein. Ça se passe à un moment, puis on n'est plus habitué de vivre ces événements-là. Maintenant, avec les plateformes numériques, tout le monde, on écoute nos émissions quand on veut, puis on n'a plus d'événements rassembleurs comme ça où on vit tous quelque chose en même temps, puis c'est l'effet que ça a fait hier, oui.
OK, cette passion pour l'astronomie, ce goût, cet intérêt, t'as développé ça comment?
Ben, en fait, moi, j'ai surtout un goût pour tout ce qui, tous les phénomènes scientifiques qui transcendent un peu, qui nous en apprennent plus sur l'univers, sur de quoi on est fait. Donc, je m'intéresse autant à l'infiniment grand, donc l'astronomie, les théories du Big Bang, les trous noirs, tout ça, puis aussi à l'infiniment petit, donc la physique quantique, tous ces phénomènes qu'on décrit scientifiquement, puis qui ont une allure de magie, qui ont une allure de quelque chose de plus grand que nous. Ça date depuis aussi longtemps que je me souviens. Là, je me rappelle pas la vie avant de triper là-dessus, là, quand j'étais jeune, puis que je pense que la première fois, c'est quand un professeur de physique au primaire nous a parlé des atomes. Ça m'a fasciné, puis là, je suis tombé là-dedans. Aujourd'hui, je suis abonné à peu près à toutes les revues scientifiques. Je suis au quotidien tout ce qui se passe. Là, récemment, avec la lancée du télescope James Webb, je regarde tout ce qui est observé, puis tout ce qui bouleverse les théories en cours. Donc, c'est une espèce de passion de savoir de quoi on est fait, puis où on s'en va comme humain, finalement.
Merci d'avoir pris ces minutes-là avec nous ce matin.
C'est un plaisir, Paul.
Au revoir. Luc Langevin, illusionniste et amateur d'astronomie. Maintenant, on va parler un peu d'économie. Il y a un mouvement parmi des restaurateurs qui s'appelle « Au resto sans ma carte de crédit » où en échange d'un rabais, ben, on vous demande de payer soit en argent comptant ou avec une carte débit. Martin Guimond est avec nous, c'est le propriétaire du Saint-Boc sur la rue Saint-Denis, puis il fait partie de ce mouvement-là. Monsieur Guimond, bonjour.
Bonjour.
Expliquez-moi un peu là comment vous souhaitez que ça fonctionne. Donc, les gens sortent pas leur carte de crédit, vous paient avec une carte débit ou en argent comptant. Qu'est-ce qu'ils ont en retour?
Eh bien, nous, on va offrir un rabais de 2%. Je sais que c'est un peu symbolique en réalité, mais les frais de carte de crédit qui sont imposés aux restaurateurs sont vraiment très élevés. On parle de souvent 3,5 aller jusqu'à 5% selon le type de carte de crédit que vous avez. Les cartes de crédit, dans le fond, ont trouvé ce moyen-là avec des points, avec des rabais que eux offrent de pouvoir conserver la clientèle puis les faire dépenser de plus en plus sur leur carte de crédit. Ces frais-là, pour nous, représentent des dizaines et des dizaines de milliers de dollars par année. Et souvent, les clients me demandaient dans le passé, parce qu'on a toujours eu de la difficulté, même depuis l'hiver, comment est-ce que je pourrais faire pour aider, exemple, ton restaurant ou aider la restauration? Puis on dit souvent, ben, aller en restaurant, acheter des choses. Puis quand on y pense vraiment, ben, écoutez, faites juste payer par débit ou en argent comptant. Moi, je préfère débit idéalement, là. Et puis, on va vous donner un rabais. Parce que quand les gens paient par carte de débit, les frais sont d'environ 8 sous à 10 sous par transaction. Je donne un exemple. Sur une facture de 100 $, Visa Mastercard va aller chercher environ 5 $30 de frais. C'est énorme. Puis moi, mon grand questionnement, c'est comment ça se fait qu'en tant que restaurateur, j'ai une marge de profit entre 2,5 et 3%, puis que Mastercard et Visa vont faire entre 3,5 et 5%. Ils font plus de profit dans notre propre restaurant que nous, on en fait. Alors moi, je me suis dit, si je peux éviter ces frais-là, bien, je vais les partager avec les clients. Donc, vous qui ramassez des points sur votre carte de crédit, qui est un incitatif de dire, je vais prendre ma carte parce que je vais me ramasser des points, puis dans 8 ans, je vais m'acheter un aspirateur, par exemple. Ben, moi, je vais vous donner 2% immédiatement dans vos poches. C'est peut-être pas grand-chose, mais c'est plus que ce que votre carte de crédit va vous donner, qui est environ 1,5%. Puis moi, de mon côté, ben, ça me fait environ 1,5 à 2% de plus dans mes poches. Fait qu'on est tout le monde gagnant. Les compagnies de cartes de crédit contrôlent le nombre de points que vous avez besoin. Ils vous donnent des points qui équivaut à peut-être 1,5%. Ils vous disent que vous allez pouvoir vous acheter des choses avec vos points. C'est eux qui déterminent le prix en points des choses que vous avez achetées. Fait que vous n'avez pas vraiment de contrôle sur ce que vous achetez en réalité. Fait que le nombre de points d'année en année peut augmenter, puis vous n'avez aucun contrôle. Puis, vous n'avez pas d'intérêt nécessairement sur vos points. Moi, si je vous donne 2 % c'est peut-être pas grand-chose, mais c'est 2 % de moins. Si vous ne payez pas votre compte à la fin du mois, ben vous avez 2 $ de moins d'intérêt. Vous avez 2 % de moins à payer sur la TPS, la TVQ. Puis, il y a une aberration que les gens savent pas en réalité aussi avec les cartes de crédit. Quand les gens paient par carte de crédit, les fameux frais de 3,5 à 5 %, nous, en tant que restaurateurs, on doit payer ces frais-là sur le tiers de la facture d'argent qui ne nous appartient pas. Je dois payer ces frais-là sur la TPS TVQ. Donc moi, quand un client paie, je donne, par exemple, on va arrondir à 4 %, là, je donne 4 % de frais de TPS TVQ de plus à Visa Mastercard. Sur le pourboire, je dois payer 4 % de frais que je vais donner à Visa Mastercard. Donc, il y a le tiers de la facture des clients auquel je dois payer des frais de carte de crédit d'argent qui ne m'appartient pas du tout et qui ne reviendra jamais à nous.
OK. Merci, M. Guimond. Bonne journée.
Merci.
Au revoir. Martin Guimond est propriétaire du Saint-Boc. C'est une brasserie artisanale sur la rue Saint-Denis.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici,
très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.